Au cours des deux dernières semaines, les Canadiens ont offert des performances inspirantes et sont premiers au classement général. Tom Brady participera à son 10e Super Bowl avec les Buccaneers de Tampa Bay. Et il sera accompagné du Québécois Anthony Auclair. Les deux joueurs affronteront les Chiefs de Kansas City. Bon, l'impact est mort. Vive le club de foot de Montréal. Pendant que l'on se pose des questions si les Jeux olympiques de Tokyo auront lieu, nous, pour la prochaine heure, on parle de sport. Mes invités aujourd'hui seront Louis Garon, Yvan Deslauriers, Charles Dubébret, Maxime Gagnon, Mélanie Abel et Richard Saint-Amour. On retrouve Jean-Sébastien Laliberté et Mathieu Tessier à la technique et à la coordination, Louis Garon. Mon nom est Dominique Tremblay et au cours de cette émission du 26 janvier, nous parlerons du Festival d'hiver de baseball, adapté Challenger, du camp d'entraînement de l'équipe canadienne de para-hockey, d'une étude sur le parasport communautaire, une expérience de jeune femme, d'une campagne de publicité de Reitman, de la nouvelle saison de la NBA et finalement du décès de Hank Aaron. Take me out to the ball game. Take me out with the crowd. Buy me some peanuts and crack. Le baseball est un sport d'été populaire. Baseball Canada a d'ailleurs créé un programme, le programme Challenger Baseball adapté pour permettre aux personnes handicapées de pratiquer le sport qu'ils aiment. Et le 6 février prochain, les athlètes du programme de tout le pays pourront réseauter et s'entraîner comme un Blue Jays lors du premier festival virtuel d'hiver. Richard Saint-Amour, coordinateur provincial du baseball adapté pour Baseball Québec, est avec nous. Bonjour, M. Saint-Amour, ça va bien?
Très bien, vous-même, M. Tremblay.
Merci beaucoup, ça va très bien. Donc, parlez-moi un peu de ce festival-là. De quoi ça consiste?
En fait, à l'initiative des Blue Jays de Toronto, de par leur fondation qui s'appelle la Jays Care Foundation, étant donné la pandémie, difficile de tenir sur les lieux même du Rogers Center Stadium une activité d'été. Donc, la fondation des Blue Jays a décidé d'offrir ou d'organiser un festival d'hiver virtuel qui consiste en 5 manches, des activités échelonnées sur 5 manches. Ce sont des activités qui sont destinées à permettre aux athlètes de partout au Canada, comme vous l'avez dit en introduction, d'échanger, de réseauter, de voir qu'ils ne sont pas seuls à pratiquer un sport adapté, de découvrir des nouvelles façons de développer leurs habiletés motrices, de prendre courage dans leurs capacités et surtout de faire ça dans le plaisir tout en étant pas seul au Canada.
Et vu la pandémie, c'est une belle façon d'être un peu actif pour ces jeunes qui n'ont pas nécessairement la chance de le faire présentement.
Effectivement. C'est une bonne opportunité.
Et à qui s'adresse... en fait, le baseball adapté comme tel, quand il y en a puis quand c'est l'été, comment ça fonctionne?
En fait, le baseball adapté, contrairement au baseball, appelons-le typique, le baseball adapté est un prétexte pour amener les jeunes à participer. Le baseball se joue, mais pas de la même façon qu'on le connaît. Il se joue au moyen d'ateliers dans le but de développer les habiletés motrices des participants, de permettre à se délier les muscles, à bouger, à prendre l'air. Le sport du baseball n'est que le prétexte pour amener les participants au terrain. Je ne vous cacherai pas que le baseball adapté, si on s'attend à ce qu'il y ait un livre de règlement, ben, tout le monde va être déçu parce qu'il n'y en a pas, il n'en existe pas et ce n'est pas dans les projets et dans la vision d'en écrire un livre de règlement. En fait, il y en a un règlement, c'est d'avoir du plaisir.
C'est un peu comme quand moi j'étais jeune, on se ramassait une gang d'amis dans le parc, sur le coin de la rue, puis on se mettait à jouer au baseball pour le fun avec un bâton, une balle, puis des gants, si on était chanceux d'en avoir un. Là. C'est à peu près ça l'idée, puis qu'on s'amuse.
C'est un petit peu l'idée, sauf que évidemment, on se rend au terrain de balle ou à l'intérieur en gymnase, tout dépendant des occasions ou des différents endroits auxquels le baseball est adapté, est organisé. Mais il y a un animateur ou une animatrice sur place qui dirige les ateliers. On ne s'en va pas là dans le but de faire ce que bon nous semble. Il y a des ateliers de formation, des ateliers qui sont préparés. Évidemment, libre à tout le monde d'y participer dans la façon qu'il le veut, mais il y a un animateur qui est préparé, qui sait qu'est-ce qu'il fait et dans quel but c'est fait, dans le but de faire bouger les participants, puis de leur faire vivre une expérience de baseball avec une casquette sur la tête, avec un chandail de baseball sur le corps et de lui donner l'impression ou le sentiment de faire partie d'une équipe au sein d'une ligue.
Et à qui s'adresse le programme en particulier, le jeune type ou l'athlète type du programme?
Ben, en fait, si on compare, si on regarde ce qui se fait ou ce qui est recommandé par Baseball Canada ou les programmes que Baseball Canada et les fédérations provinciales soutiennent, c'est un sport qui est destiné à la jeunesse. Donc, on parle de plus jeunes à adolescents, on parle de 4 à 18-19 ans. Cependant, spécifiquement pour le programme Challenger Baseball Adapté, la fédération que je représente au Québec, Baseball Québec, ne limite pas les âges. Dans le sens que s'il y avait un groupe d'adultes qui voulaient participer à ces activités-là, bien, Baseball Québec va reconnaître leur adhésion à juste titre, comme si c'était un adolescent. Donc, au Québec, il n'y a pas de limitation. Et la Fondation des Blue Jays, qui en est le promoteur national, eux non plus n'ont aucune objection à supporter un groupe d'adultes qui voudraient pratiquer le baseball adapté.
Vous avez mentionné deux groupes, les Blue Jays et Baseball Québec. Leur implication m'intéresse. On va commencer par les Blue Jays. Depuis quand ils sont impliqués dans le programme et qu'est-ce que ça apporte au programme que les Blue Jays en fassent partie?
En fait, depuis près de 7 ans maintenant, la fondation Jays Care est le promoteur national du programme de baseball adapté Challenger. C'est eux qui sont les maîtres penseurs de ce programme-là. C'est à leurs initiatives que des formations sont disponibles pour les entraîneurs. C'est à leur initiative que des activités sont développées. C'est à leur initiative que des visites peuvent s'organiser dans des écoles, justement pour inciter les jeunes à participer. C'est pas tout le monde qui a peut-être la possibilité d'aller au parc un mardi soir pour jouer au baseball. Cependant, sur l'heure du midi ou après les heures de classe, il y a peut-être moyen pour des enseignants ou des éducateurs en éducation physique d'organiser une activité sur les lieux de l'école avant le retour à la maison. Donc, les Jays sont vraiment les maîtres penseurs et les leaders au niveau national de ce programme-là et d'une foule d'autres programmes d'inclusion.
Et quelle est l'implication de Baseball Québec dans le programme?
En fait, Baseball Québec, quand un participant désire jouer au baseball adapté, bon, il s'inscrit et Baseball Québec supporte les organisations locales et les associations régionales dans la promotion du baseball adapté de par un soutien logistique, de par un soutien administratif et surtout de pourvoir des assurances responsabilités pour les participants au même titre qu'un participant typique.
Je vais vous poser deux questions présentes. Si je suis dans un endroit À quel endroit on peut le pratiquer présentement, le sport?
Présentement, au Québec, il y a 6 ans, quand on m'a demandé de développer ou de me prendre en charge le comité provincial du baseball adapté, il n'y avait que dans ma ville de résidence, Laval, où on a débuté les activités, et il y avait déjà deux autres endroits au Québec où il y avait du baseball adapté qui se jouait, mais pas sous le parapluie de Baseball Québec. 7 ans plus tard, on est 16 endroits au Québec qui se jouent dans 14 des régions administratives du Québec. Quand je parle de région administrative, ça se joue au Saguenay, ça se joue en Abitibi, ça se joue en Outaouais, dans l'Estrie, dans la région de Montréal, Laurentide, Lanaudière. Et il me reste à peu près juste la Gaspésie puis la Côte-Nord à réussir à trouver quelqu'un. Et j'ai même des endroits qui vont commencer à en faire à l'été 2021, des nouveaux endroits comme Lac-Mégantic, Victoriaville et puis Lévis.
Donc, si on veut plus d'informations, on peut vous contacter à partir du site web de Baseball Québec?
Oui, le www.baseballquebec.com. Sur la page d'accueil, en descendant un peu les différents onglets, vous allez voir la section Baseball adapté.
Je vous remercie beaucoup, M. Saint-Amour. Je vous souhaite une bonne activité le 6 février, puis on va s'en reparler un petit peu plus au cours de l'été, quand il va faire un peu moins froid, puis un peu plus soleil.
Effectivement. Ben, je vous remercie de l'opportunité, puis bonne fin d'hiver à tout le monde.
Merci. Alors, bonjour Maxime, comment ça va aujourd'hui?
Très bien, merci. Merci de me recevoir.
Ça me fait plaisir. Donc, ça fait 11 jours que tu es à Calgary avec l'équipe canadienne de hockey luge. Comment s'est déroulé le camp d'entraînement?
Écoute, ce camp de para-hockey a été grandement utile pour briser l'isolement de certains joueurs qui étaient dans leur province et aussi, je te dirais, dérouiller. Souvent, les joueurs vont avoir la chance d'avoir de la glace dans leur ville, toute seule ou à deux, pas plus. Mais là, d'être 14 joueurs ensemble, de jouer des matchs intra-équipe, de faire des drills avec des gardiens de but, parce que souvent, il y en a qui n'ont pas la chance de s'entraîner avec des gardiens de but, d'avoir des conseils, des entraîneurs adjoints, des entraîneurs, du psychologue, que la thérapeute regarde les petits bobos qu'il y a. Tout ça fait qu'on repart bientôt avec un beau bulletin pour chacun des joueurs, puis je pense qu'ils sont tous motivés et on espère les revoir bientôt.
Il y a le championnat du monde qui va avoir lieu au mois de mai en République tchèque. C'était pas le camp de l'équipe canadienne, là. C'était plus un gros groupe, puis les joueurs vont être sélectionnés à partir de là, c'est ça?
L'ensemble des joueurs ont été invités pour différentes raisons personnelles. Il y en a qui n'ont pas pu venir. Et de là, il va y avoir d'autres camps qu'il va y avoir. La sélection n'est pas déterminée encore. Et la tenue du championnat du monde va être décidée à la mi-février environ. C'est là qu'on va savoir si c'est possible que ça ait lieu ou pas. Donc, présentement, avec tout ce qui se passe avec la pandémie, il n'y a rien de garanti, mais il n'y a rien de cancellé non plus. Donc, éventuellement, oui, il y aura une sélection officielle. Quand est-ce qu'elle va avoir lieu, on ne le sait pas encore.
Il y a aussi, tu viens de parler de pandémie. Le Hockey Canada avait mis des bonnes procédures en place, là. Ils ont quand même pas mal d'expérience avec le championnat du monde de hockey junior qui s'est déroulé durant le temps des fêtes, mais ça s'est quand même bien déroulé pour vous, là.
Oui, en étant conjointement avec l'équipe nationale féminine, on était tous les deux groupes dans la même bulle. Nous étions dans le même hôtel. L'hôtel était fermé pour les monsieur, madame, tout le monde. Chaque équipe avait son aile de l'hôtel, donc on se croise pas. Et à l'aréna, il y a minimum une heure entre les deux, l'entrée et la sortie d'un groupe. C'était un, il n'y avait rien à dire. L'ensemble des joueurs a très bien collaboré, l'ensemble du staff aussi a bien collaboré. C'est ce qui fait qu'on sort avec ça, avec une note parfaite. puis peut-être éventuellement en tenir un au Québec, c'est ce qu'on aimerait, un genre de camp comme ça, de créer une bulle, c'est quelque chose qu'on va regarder éventuellement.
OK. Tu as parlé que les joueurs, avant de se présenter à Calgary, n'avaient pas eu beaucoup de chance de s'entraîner. Le niveau de conditionnement physique des joueurs, est-ce que c'est vous avez quand même eu des surprises ou tout va bien?
Je vous dirais qu'on a eu quelques surprises, peut-être négatives, mais quelques surprises aussi positives des joueurs qui sont restés top shape. Mais je vous dirais qu'à la fin du camp, l'ensemble des joueurs étaient revenus probablement pas à un niveau excellent, mais à un très bon niveau. Puis ils vont rester motivés avec ça jusqu'au prochain camp, c'en est sûr.
Toi, Maxime, tu t'occupes du programme au Québec. Il y a 5 athlètes qui ont été invités au camp. Est-ce que tu peux nous parler un peu des 5 athlètes, là, comment ça se présente pour eux en vue d'une sélection sur l'équipe nationale?
Oui, Dominique Larocque, le gardien de but, qui, écoutez, sans l'ombre d'un doute, va probablement être le gardien numéro 1 de l'équipe Canada. Performe très bien, va très bien. N'a pas pu être présent pour des raisons personnelles, très valables. On a Antoine Lehoux aussi, même chose, il n'a pas pu être présent, mais très bonne chance là, d'être parmi les premiers trios sur les premières lignes. On a Alexis Auclair, qui malheureusement n'était pas présent non plus au camp pour des raisons familiales. Et lui se bat très fort pour être sur parmi les joueurs sélectionnés.
Il y avait aussi deux jeunes athlètes. Là. Je pense que c'était de leurs premières expériences sur l'équipe nationale.
Anton Jacob Webb, non. Ça fait plusieurs années qu'il est sur le programme. Je vous dirais que ce serait 5 ans. Mais d'avoir un spot officiel, c'en est un qui nous a surpris tout au long du camp, qui s'est entraîné très fort au Québec. Et de là, ben, écoutez, on a vu les résultats, puis c'est assez impressionnant ce qu'il a fait. Anton est un jeune de l'Outaouais. Il a quand même juste 21 ans, mais ça fait plusieurs années qu'il est sur le programme. Ça fait 5-6 ans qu'il est sur le programme facilement. Il a commencé très jeune. Et là, on voit qu'à sa maturité, là, il performe très bien. Il étudie maintenant à Montréal, donc s'entraîne avec le club de para-hockey de Montréal. Et on a Jean-François Huneau, gardien de but, qui un jour espère prendre la relève de Dominique Larocque. Jean-François, c'est son deuxième camp, Calgary seulement. Donc, de bonnes chances d'être présent sur l'équipe nationale après les Jeux paralympiques. On ne souhaite pas de malheur à personne, là, mais quand même dans le top 4 là, des gardiens de but présentement. Et espère se tailler une place. Repart encore une fois cette année avec beaucoup de bagages, beaucoup de choses à apprendre, à pratiquer à la maison. Mais Jean-François veut beaucoup et on espère le voir fièrement porter le chandail du Canada prochainement.
Il n'y a pas si longtemps, il y avait un ou deux athlètes du Québec qui participaient de façon régulière au camp d'entraînement. Maintenant qu'il y en a 5, le programme, ça va quand même bien au Québec.
Le programme de para-hockey va très bien au Québec. On a 8 régions qui participent. On a des régions qui sont solides. Il y en a qui sont plus intenses que d'autres au niveau de la participation. On a une ligue qui a été créée l'an passé pour la première fois. Malheureusement, on a dû arrêter dû à la pandémie cette année, mais on avait quand même 6 régions sur 8 qui participaient. On a un programme qui s'appelle Première Présence, qui est offert par Hockey Canada. C'est un programme qui, à la base, était offert pour le hockey debout, pour les jeunes qui voulaient commencer, qui n'avaient jamais fait du hockey. Alors, en m'assoyant avec eux, pendant plusieurs années, on a essayé de mettre le projet en place. Et dans les 2 dernières années, ça a bien fonctionné. Alors, le programme de première présence offrait de l'équipement aux jeunes complètement, de A à Z, les bâtons, les patins sans lames. Nous, le club, on s'engageait à offrir une luge pendant 1 an aux jeunes. Les bâtons étaient fournis par Bauer aussi. Et je vous dirais que la première année, on a eu 14 jeunes. On en a de ces 14, 6 qui sont revenus. Donc, on est très contents parce qu'habituellement, c'est 20% le retour selon les programmes d'Hockey Canada pour le hockey debout. Et l'an passé, on en a eu 12, et sur les 12, on en a 8 qui sont revenus. Donc, c'est sûr que ces jeunes-là font que le programme va bien. Si on a des jeunes, ça veut dire qu'ils vont éventuellement monter dans le programme. On a un programme d'équipe Québec qui va bien. La Ligue est pour plus du développement, mais le programme d'équipe Québec va bien. On est en mesure d'identifier déjà 3 athlètes qui, après les prochains Jeux paralympiques, vont pouvoir prendre leur place sur l'équipe nationale, j'en suis sûr. Donc, c'est sûr qu'on est fiers. Autant c'était l'Ontario qui était très présent par les années passées, mais maintenant l'Alberta est très fort. Et on espère, nous, le Québec, prendre notre place aussi rapidement.
Merci beaucoup, Maxime. Je te souhaite un bon retour au Québec et on se reparle prochainement.
Merci, merci Damien. Bien, merci de m'avoir reçu.
Bye bye. Alors, c'est maintenant le temps de la chronique à Yvan. Il est au bout du fil. Bonjour Yvan, ça va bien?
Bonjour Dominique, oui, ça va très bien, merci. Et toi?
Très bien, merci. Aujourd'hui, tu nous parles de la conclusion d'une recherche de maîtrise.
Oui, je suis très sérieux. C'est le rapport d'un projet de maîtrise qui a été écrit par une dame qui s'appelle Michaeli Cavell ou Michaeli Cavell, qui vient d'obtenir une maîtrise de la Faculté des sciences de la santé de l'Université d'Ontario Tech. Elle a été capitaine de l'équipe féminine de hockey universitaire pendant 4 ans à Ontario Tech et elle a travaillé avec de nombreuses organisations sportives de base, notamment avec des centres pour enfants, des équipes sportives de jeunes et la fondation Jays Care, probablement reliée aux Blue Jays de Toronto.
Oui, c'est ça. D'ailleurs, on a parlé en début d'émission avec quelqu'un de Baseball Québec qui travaille avec la fondation pour faire du baseball adapté. Alors, tu es en lien avec ça?
Oh mon Dieu, on est très concept alors.
Très concept.
Ça a été publié dans le site The Sport Information Resource Center. C'est un centre de documentation pour le sport qui est le chef de file le plus fiable en matière d'apprentissage, de partage et de soutien pour la communauté sportive du Canada depuis 40 ans. Alors, c'est un site à aller consulter une fois de temps en temps.
Okay.
Donc, je rentre dans le vif du sujet. Les prochains Jeux paralympiques de Tokyo, s'ils ont lieu, seront l'occasion d'inspirer la prochaine génération d'athlètes paralympiques canadiens. Toutefois, sans un solide parcours de développement, les jeunes Canadiens et Canadiennes risquent de ne pas avoir la possibilité de poursuivre leurs rêves. Une première étape importante de tout parcours de développement est une introduction positive au sport par l'entremise de programmes communautaires de base. Il existe une lacune persistante dans la littérature relative aux expériences des athlètes dans les programmes communautaires de parasport existants, en particulier chez les jeunes participants. Alors, dans le cadre de son projet de recherche de maîtrise, Mme Cavell a parlé avec des jeunes femmes participant à un programme communautaire multisport de parasport en Ontario pour connaître leur expérience. Au Québec, si on avait fait le travail, ça aurait pu être des organismes qui sont reliés à Parasport Québec. Les athlètes lui ont fait part de l'effet de leur participation avait eu sur leur développement personnel, ainsi que leur opinion sur le programme et la façon dont ils s'intégraient dans leur vie.
Et alors, quels sont les avantages au développement personnel présentés par les participantes?
Les athlètes participantes ont noté 4 avantages pour leur développement personnel qui découlent de leur participation au programme. Le premier, c'est le développement social. Les athlètes ont estimé que le programme leur a donné plus d'occasions de socialiser avec de nouveaux pairs et des adultes qui les soutiennent, ce qui a conduit à un cercle social plus large et a augmenté leur niveau de confort puisqu'elles socialisent avec de nouvelles personnes. Ensuite, il y a le développement physique. Les athlètes ont estimé qu'elles ont développé des compétences spécifiques au sport et amélioré leurs forces et leurs conditions physiques en général. Ensuite, il y a la perception de soi. Les athlètes ont indiqué qu'elles avaient davantage confiance en leurs capacités. La mère d'une participante a décrit comment sa fille est devenue moins gênée par rapport à son handicap grâce à sa participation au programme de parasport. Avant de participer au programme de parasport, elle ne pratiquait aucun sport à l'école. Elle était gênée et après avoir participé au programme de parasport, elle s'est bien débrouillée et a apprécié le programme et cela n'a posé aucun problème. Après cela, elle était heureuse d'essayer de nouvelles choses à l'école. Et finalement, le développement des athlètes. Après avoir participé au programme, les athlètes ont voulu continuer à pratiquer le parasport et se sont fixés des objectifs pour leur participation future au sport et à l'activité physique, comme de jouer au hockey ou au basketball en fauteuil roulant.
Je trouve ça intéressant que dans les 4 avantages que tu as mentionnés, le fait de participer à des activités spécifique de sport est comme le dernier des quatre avantages. Je trouve ça très intéressant. Puis deux de ces avantages-là n'ont rien à voir avec le sport comme tel.
Non, c'est de faire grandir la personne dans tous ses aspects. Et le grandir dans le sport devient à ce moment-là un peu en marge de cette croissance-là.
Le sport vient donc d'un outil pour améliorer la personne, l'individu, c'est intéressant.
Exactement, oui.
Et qu'est-ce qu'ils ont dit à propos des entraîneurs du programme communautaire Parasport?
Au niveau des entraîneurs, l'entraîneur, c'est une source importante d'encouragement et de motivation, mais aussi de connaissances. Et les athlètes ont décrit des relations positives et encourageantes avec leur entraîneur. Puis ça, ben, on pourrait dire ça de tout type d'athlètes, qu'ils soient handicapés ou pas handicapés. Toutefois, les athlètes questionnés ont indiqué que tous les entraîneurs ne connaissaient pas bien les compétences parasportives, ce qui a eu un effet négatif sur leur capacité à entraîner efficacement les athlètes. Il n'est pas toujours facile de trouver des personnes pour entraîner des programmes communautaires, en particulier pour les postes bénévoles. Les commentaires des athlètes renforcent l'importance de la formation des entraîneurs sur les compétences parasportives et de la stratégie du parasport. Le module d'apprentissage en ligne qui est offert sur le site pourrait permettre à des entraîneurs de mieux se spécialiser. De mieux comprendre les informations sur la conception d'expériences sportives positives, sécuritaires et inclusives pour les personnes en situation de handicap.
Est-ce que dans la liste des activités sportives, est-ce qu'ils ont indiqué la liste de sports que les participants pratiquaient?
Non, ben en tout cas, moi, j'ai pas vu ça, mais on parle de services communautaires multisports. Donc, ça va du tennis de table au basketball en fauteuil roulant, de para-hockey, d'athlétisme, de cyclisme, etc. Le but, c'est au tout début du parcours du jeune athlète, c'est de lui montrer une pléiade d'activités sportives qui pourraient l'intéresser et l'amener éventuellement à se spécialiser.
Intéressant. Je trouve que c'est les conclusions de cette étude sont très pertinentes et j'espère que ça va être poussé un peu plus loin. Je te remercie, Yvan. Je te souhaite un bon deux semaines et on se reparle lors du prochain émission.
Merci. Au revoir.
Et alors, c'est maintenant le temps de la pause. Et après la pause, c'est le spectacle de la mi-temps. Puis on parle de la NBA et de mode.
Ladies and gentlemen, welcome to the halftime show.
Everywhere that you go, look around.
On vient d'entendre la chanson Vogue de Madonna enregistrée live dans les années 90 et j'ai un peu de suite dans les idées. Alors, la compagnie de vêtements Ritmans vient tout juste de lancer une nouvelle campagne de publicité et dans le cadre de celle-ci, on peut voir une jeune femme en fauteuil roulant. Il s'agit de Mélanie Labelle, membre de l'équipe canadienne de rugby en fauteuil roulant. Elle est avec nous. Bonjour Mélanie, ça va bien?
Bonjour Dominique, ça va super bien et toi?
Très bien, merci. Comment s'est présentée pour toi la publicité de Ritmans?
Écoute, c'était un beau matin, je me suis réveillée avec un courriel qui je m'en attendais pas du tout. Ça a été, dans le fond, Ritmans qui ont fait un effort. Je pense que c'est de plus en plus grand, là, passé par les réseaux sociaux. Fait que dans le fond, ils ont vu ma page Instagram qui est très, très modeste. Il n'y a pas beaucoup de posts dessus, mais ils ont vu la page, puis ils cherchaient en fait des candidats qui étaient un peu actifs, mais pas rien de gros, là, genre actifs, légers, social, souriants, joueurs un peu. Puis ils cherchaient à présenter la danse, le yoga, l'entraînement à la maison un peu en cette période de pandémie. Puis juste être nous, puis se redéfinir, puis tu sais, enlever un peu la pression sociale dans cette année 2020 qu'on avait là.
Et donc, tu es membre de l'équipe nationale de rugby en fauteuil roulant. Avant ton handicap, je pense que tu faisais beaucoup des choses de cirque et de danse, des choses comme ça. Donc, tu avais le profil quand même idéal pour eux, là. C'était quand même intéressant.
Oui, ben en fait, avant mon accident, je dansais la danse swing. On ne disait pas du tout du cirque ou rien, c'était très social. Mais oui, j'ai pratiqué quand même plusieurs sports avant mon accident aussi. Donc, le rugby était quand même une suite logique pour moi pour rester active post-accident. J'adore la communauté, c'est vraiment ça. Mais dans le cadre de Ritman, c'était vraiment pas cet angle-là ou vraiment pas cette Mélanie-là qui recherchait. En fait, ils n'ont pas voulu représenter le rugby ou même ils en ont parlé un peu, mais c'était plus, je pense qu'ils ont accroché, c'était les photos avec quadriptyque, donc tout ce qui est la troupe de danse de France Geoffroy.
Okay.
Puis il y avait, je pense qu'il y a Michael Taimer qui a fait des shooting photos pour le site internet de quadriptyque de la troupe de danse de France. Et puis je pense que ces photos-là étaient sur mon compte, puis ils ont vu, en fait, mon Dieu, c'est de la danse en fauteuil, elle danse avec quelqu'un qui n'a pas d'handicap, on pourrait peut-être reprendre cette idée-là. Fait que je pense que ça c'est ça qui les a inspirés le plus, là.
Ça a été fait durant la pandémie. Comment ça s'est déroulé?
Oui, bon. ça a été un gros... j'ai pas répondu oui tout de suite, disons. Il y avait beaucoup de craintes de mon côté, là. Je voulais pas faire ça pour rien. Je voulais m'assurer qu'il y a un bon cadre, des bonnes mesures mises en place pour garder la sécurité de tout le monde. Puis, dans le fond, ce qu'on m'a offert, c'était déjà... Il y avait déjà un staff réduit... pour le shooting, tout le monde avait les mesures demandées par le gouvernement, donc il y avait le masque, la distance respectée, ces trucs-là. Fait que moi, dans le fond, j'ai fait mon propre maquillage. Je suis arrivée là-bas pour pas qu'il y ait aucun contact avec les autres, en fait. Puis, c'était un in and out. J'étais la première sur place aussi pour pas qu'il y ait les autres mannequins, pour vraiment limiter les contacts avec les autres. Donc, je pense qu'ils ont été super advenants de ce côté-là. Puis, les entreprises essaient de fonctionner mieux qu'ils peuvent dans les nouvelles contraintes, mais je pense que il y avait même quelqu'un sur place qui faisait respecter toutes ces mesures-là. Donc, ça a tout de même bien été, mais j'avais quand même une porte ouverte pour refuser là, par rapport à justement la pandémie. T'sais, ils s'attendaient à fonctionner avec les moyens du bord, disons, par rapport à ça.
Et qu'est-ce que tu penses de l'implication des entreprises de détail comme ça pour s'adresser aux personnes handicapées et puis les voir de plus en plus actives et ainsi de suite?
Moi, je souhaite qu'il y ait une représentation plus grande, en fait, mais en ce moment, ce que je vois beaucoup, tu sais, avec le rugby, avec l'implication, tu sais, je suis allée aux Jeux Parapanam, puis tout ça, j'ai fait beaucoup d'entrevues avec les médias, puis ce que je remarque, puis j'ai pas du tout la prétention d'avoir une maturité au niveau du handicap. Moi, ça fait que 5 ans que je suis dans ma situation. Puis dans ces 5 ans-là, j'en ai passé une complètement chez moi, sans vraiment d'accès à la société. J'ai pas encore été sujet à beaucoup de clôtures dans la société, mais je parle avec des gens qui sont en situation de handicap depuis des années, depuis la naissance, qui vivent avec des situations complètement différentes que moi. Puis moi, ce que je remarque, c'est beaucoup la langue qui est déjà donnée aux médias, qui est plus inspiration, ces trucs-là. Ce que j'aimerais en faire, puis ce que je souhaite aux entreprises, c'est de faire un peu ce processus-là, d'apprendre différentes couleurs, différents handicaps, essayer de représenter hommes, femmes, peu importe la culture, de vraiment avoir plusieurs couleurs dans leur campagne pour aider justement aux gens à...
Ou je pense que, Mélanie, on t'a perdu dans les dernières secondes. Mais tu penses qu'avec Rateman, t'as un petit peu réussi ça dans les 30 dernières secondes de l'entrevue?
Oui, je m'excuse. Mais dans le fond, je pense que Rateman, on fait un bel effort pour essayer de représenter différentes couleurs, différentes femmes, différentes âges, différentes formes. Puis c'est ce que j'aimerais, en fait, que les médias puissent mettre de l'avant ultérieurement. Mais pas nécessairement juste Rémi Labelle dans un fauteuil, mais plusieurs types de handicaps représentés dans les médias, dans les campagnes, dans les publicités. Ouais, ça serait génial.
Donc, merci beaucoup, Mélanie. En espérant que la publicité fasse... on puisse te voir pendant longtemps et puis que le rugby puisse recommencer, que tu puisses t'entraîner au rugby. À la prochaine.
Merci à toi. Au revoir.
Au revoir. Oh non, encore, du basketball. C'est vraiment le basketball. Contrairement à notre ami Bob Bissonnette, moi j'aime bien ça le basketball. La saison de la NBA est débutée depuis Noël et je voulais en jaser avec Charles Dubé-Bret, qui en connaît un bail sur le sujet. On s'est parlé hier après-midi. Bonjour Charles, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Oui, avec plaisir.
Donc, les Raptors ont à peu près 17-18 matchs de jouer. Ils ont connu un lent début de saison, quoiqu'ils ont gagné leurs deux derniers matchs. Qu'est-ce qui explique ce lent début de saison-là?
Je pense qu'il y a, sans vouloir tout mettre là-dessus, mais je pense qu'il y a un petit peu de... Ben, il y a plusieurs facteurs, mais il y a un peu de malchance là-dedans aussi. Je pense pas que les Raptors étaient aussi mauvais que leur fiche de 2 victoires, 8 défaites après 10 matchs l'indiquait. Je pense qu'ils ont pas été très chanceux dans certains matchs. Je pense qu'ils ont eu 6 matchs là-dedans où ils avaient des avances de 10 points plus qu'ils ont pas été capables de terminer. Bon, ça dénote aussi une certaine incapacité à bien terminer les matchs, mais qui était pas nécessairement aussi grave que leur fiche, à mon avis, pouvait l'indiquer. Il y a eu forcément aussi les difficultés que Pascal Siakam a connues. Il y a certains joueurs aussi, particulièrement les joueurs du banc, les joueurs à la position de centre qui n'ont pas très bien commencé l'année. Donc, si tu veux, l'accumulation de tout ça, peut-être un peu aussi le déménagement à Tampa, le fait que la situation n'était pas tout à fait complètement réglée pour la plupart des joueurs et des entraîneurs quand la saison a commencé. Donc, si tu accumules tous ces facteurs-là, il y a peut-être eu quelques défaites qui auraient dû être des victoires qui se sont glissées là-dedans, mais il reste que les Raptors, ils sont pas mal plus. Ce qu'ils ont été depuis, avec leurs 5 victoires en 6 matchs, là, depuis la mauvaise séquence du début, ils sont plus ça que ce qu'ils ont démontré dans les 10 premiers matchs. Puis je pense qu'on va en avoir des Raptors qui vont être très compétitifs, qui devraient se qualifier pour les séries éliminatoires sans trop de problèmes, à mon avis, et puis qui vont ressembler un peu plus à l'équipe de l'année dernière qu'à l'équipe de bas de tableau qu'on a vu en début de saison.
C'est bien, c'est bien. Et puis un point positif, le rendement du Québécois Chris Boucher. Il y a plusieurs personnes qui pourraient dire qu'il pourrait même être en nomination pour le joueur le plus amélioré sur le circuit à la fin de la saison.
Oui, effectivement, ben, il est clairement dans la discussion. Il est aussi dans la discussion pour meilleur sixième homme aussi, à moins que les Raptors éventuellement changent leur fusil d'épaule puis décident de le mettre dans le 5 de départ. Mais il reste que Chris mérite, je pense, le début de saison qu'il fait. C'est un joueur qui a toujours été prêt à contribuer quand on a fait appel à lui, que ce soit dans des minutes extrêmement réduites il y a 2 ans ou que ce soit l'année dernière avec des minutes un peu plus importantes, mais pas encore comme celle de cette année. Puis il a réussi, c'était quand même pas une tâche facile, mais à maintenir son niveau de performance par minute, si on veut, statistiquement parlant, sur des minutes beaucoup plus grandes, alors que les équipes le connaissent mieux, se préparent plus pour lui, puis il affronte quotidiennement des meilleurs joueurs aussi. Avant, il y a des matchs où il jouait pas du tout, il y a des matchs où il rentrait, mais c'était simplement peut-être les 5 dernières minutes du match quand l'issue était déjà réglée. Mais là, Chris, il scoltine les vrais stars de la Ligue, les vrais joueurs titulaires de notre équipe régulièrement. Donc, d'être capable de produire à ce niveau-là, c'est impressionnant. Puis je pense que c'est vraiment intéressant pour nous de voir un Québécois comme lui performer comme ça, mais encore plus pour lui qui commence à avoir vraiment un break dans sa carrière puis être capable de rentabiliser tout ce qu'il est capable de faire.
Au cours des dernières années, peut-être les 10, même les 7, 8 dernières années, la conférence de l'Ouest était vraiment plus forte que l'Est. Mais je pense que cette année, ça commençait à voir ça l'année passée, mais cette année, la conférence de l'Est est vraiment, vraiment, vraiment forte. Même qu'un joueur de Houston qui vient de tout juste de déménager à Brooklyn rend les choses encore plus difficiles pour les Raptors.
Oui, je pense que, bon, on parle souvent de l'Ouest qui est plus fort, mais faut nuancer cette phrase-là, c'est-à-dire que c'est pas faux, mais c'est surtout qu'il y a plus de bonnes équipes dans l'Ouest. Il y a facilement 11 à 12 équipes qui peuvent compétitionner, espérer jouer pour 500, se qualifier en séries éliminatoires, ce qui est absolument pas le cas dans l'Est. Dans l'Est, même si tu joues en bas de 500, t'es jamais si loin que ça d'une place en série, de terminer 8e, voire 7e. Mais je pense que si tu parles du top 5, top 6, depuis 2 ou 3 ans, l'Est est aussi fort que l'Ouest. Tu prends la saison dernière, des équipes comme Milwaukee, les Raptors, le Heat, les Celtics, voire même les 76ers qui sous-performaient un petit peu, mais je pense entre autres même aux 76ers d'il y a 2 ans, l'équipe que Kawhi Leonard a battu sur le lancer spectaculaire.
Tout un lancer, ouais.
Toronto. Ben oui, c'est ça. Tu sais, cette équipe-là, les 76ers, pour moi, elle était assez bonne pour aller jusqu'au bout. Il n'y a rien qui dit que si le lancer de Kawhi Leonard ne rentre pas, que les Sixers vont éliminer pas les Bucks par la suite, qu'ils ne gagnent pas la finale contre les Warriors. Je veux dire, ça a été l'équipe qui a été la plus difficile à vaincre pour les Raptors à travers leur périple éliminatoire. Donc, ça fait quand même quelques années que moi, je trouve que le sommet de l'Est est équivalent au sommet de l'Ouest. Oui, je pense quand même qu'on peut dire aujourd'hui que les Lakers, c'est la meilleure équipe de l'NBA. Les Clippers sont très, très bons. Ils sont peut-être la deuxième meilleure équipe, mais le groupe là, de ces équipes-là, Clippers, Nuggets, Jazz, Mavericks, ce groupe-là, puis il y avait les Rockets avant l'échange de Harden, bien entendu. Est-ce que ça, c'est vraiment plus fort que le groupe dont je parlais tantôt là, et qu'on a en ce moment? Je veux dire, les Bucks sont un sérieux candidat au championnat NBA. Les Nets sont un vrai candidat, surtout depuis l'échange de James Harden. Donc, il y a vraiment les 76ers qui font un très bon début de saison. Les Celtics vont être intéressants quand Jason Tatum va revenir au jeu. Donc, il y a vraiment un paquet d'équipes dans l'Est qui sont aussi fortes que ce qu'il y a dans l'Ouest. Puis c'est assez difficile de prédire comment ça va se terminer parce que même si au début de la saison, je voyais peut-être les Bucks avec une petite longueur d'avance, je pense que depuis, les Sixers avec le jeu de Joel Embiid se sont vraiment imposés. Puis les Nets, comme je disais, avec maintenant le trio Harden, Durant et Irving, ont autant de talent que n'importe qui dans la Ligue. Donc, ça va être intéressant à suivre.
Et toi, pour l'année dernière, tu étais entraîneur adjoint au club école des Raptors, les Raptors 905 qui jouaient à Mississauga. À cause de la pandémie, la Ligue de développement va jouer seulement un mois en Floride. Est-ce que tu vas te joindre à cette équipe-là?
Non, les Raptors ont réduit les effectifs cette année, comme la grande majorité des équipes. Déjà, par l'information générale, c'est qu'il y a 11 des 28 équipes de G-League qui ne participent pas à la saison cette saison. Donc, presque la moitié des équipes qui ont décidé de passer leur tour. Les Raptors font partie des 17 qui vont y aller. Comme tu le disais, c'est seulement un mois. C'est basé aux États-Unis. Forcément, comme les Raptors ne peuvent pas jouer à Toronto, ben les 905 ne peuvent pas être basés à Mississauga. Ce qui a fait en sorte que les Raptors ont pris la décision de simplement garder des gens qui étaient déjà sous contrat, d'utiliser des assistants coach des Raptors pour la bulle à Orlando, ce qui fait que plusieurs gens qui étaient dans ma position ont participé aux activités de 905 cette année, malheureusement.
Donc, merci, je te souhaite bonne chance, puis j'espère que tu vas être capable de trouver quelque chose prochainement, puis on va s'en reparler par la nuit. Merci.
Excellent.
Au revoir.
Merci à toi. Bye-bye.
Well, I was a kid when old Hank came along. He carried a big stick. He had a strong arm. He was quite a slugger. And from my hometown, yeah, Hank was a player.
Hanky Hank Aaron, l'un des plus grands joueurs de l'histoire du baseball, est décédé le 22 janvier à l'âge de 86 ans. Louis Garon vient nous parler de ce joueur hors norme qui a marqué l'histoire de son sport.
Lorsqu'on parle de Henry Hank Aaron, Dominique, qu'on fait souvent référence au 8 avril 1974, alors que les Dodgers de Los Angeles affrontent les Braves à Atlanta, Hank Aaron est au bâton.
One ball and no strikes. Aaron waiting. The outfield deep and straight away. Fastball is a high drive into deep left center field. Buckner goes back to the fence. It is gone. What a marvelous moment for baseball. What a marvelous moment for Atlanta and the state of Georgia. What a marvelous moment for the country and the world. A black man is getting a standing ovation in the Deep South for breaking a record of an all-time baseball idol. And it is a great moment for all of us, and particularly for Henry Aaron.
Louis, j'entends ça, puis il me vient des frissons. Je me vois encore le voir courir autour des buts avec la foule qui l'acclame. C'est extraordinaire.
Des spectateurs même qui sautent sur le terrain pour le féliciter. Et celui qu'on entendait, c'est la voix du vénérable Vin Scully, hein, qui décrit le plus célèbre coup de circuit frappé par Hank Aaron, son 715e en carrière. Il devient ainsi le roi des coups de circuit, hein, titre détenu par Babe Ruth avec 714. Il va terminer sa carrière, Dominique, avec 755 coups de circuit, 3771 coups sûrs et une moyenne au bâton de 305. Inutile de vous dire qu'il a bien sûr été élu au Temple de la renommée en 1982.
Ça, c'est une décision assez facile.
Assez facile. Claude Raymond, hein, qu'on a bien connu ici, analyste des matchs des Expos, qui a également évolué dans le baseball majeur, fut son coéquipier pendant 6 saisons. Ses années passées à le côtoyer l'ont profondément marqué.
C'est un idole pour beaucoup de monde, puis lui, ben, il a été un gentleman là, tout au long de sa carrière, puis même... C'est, même quand Barry Bonds a battu son record, là, il n'a jamais parlé contre lui. C'était la douceur même. Puis, tu sais, quand on parle de coups de circuit, il en frappait des circuits à 350 pieds, mais il en frappait à 460 aussi. Il en frappait à tous les champs des circuits. Là. On parle de Jackie Robinson, de tout ce que Jackie a dû subir. Lui, il a subi la même chose.
Lorsqu'il parle de Jackie Robinson, c'est qu'il fait le lien, parce que c'est sûr que Jackie Robinson était le premier joueur noir à évoluer dans le baseball majeur, Dominique, mais il faut dire qu'à l'époque où il pourchassait le fameux record de Babe Ruth, il y a plusieurs personnes qui lui envoyaient des lettres haineuses, hein, pour lui dire que si tu bats le record du Babe, ben nous, on va s'attaquer à ta famille, on va ça. Et toutes ces lettres haineuses qui lui étaient adressées, eh bien, il les a conservé pour la majorité de ces lettres comme devoir de mémoire pour dire aux gens, oui, ça s'est réellement passé et ces lettres-là, je les ai réellement reçues.
Peut-être aussi un élément de motivation. Puis il le savait depuis le jeune âge là, qu'il voulait devenir un joueur de baseball.
Aaron est né le 5 février 1934 à Mobile, en Alabama. Ça, c'est dans le sud des États-Unis, en pleine ségrégation. Et pour lui, c'était clair, c'était le baseball, était sa passion et sa façon également de pouvoir s'émanciper. La Ligue des Noirs existait à l'époque, mais il faut dire que Un peu avant, bon, déjà en 1947, c'est à cette date que Jackie Robinson a fait son entrée dans le baseball majeur, alors qu'Aaron n'avait que 13 ans. Alors, tous les espoirs étaient permis pour lui de vraiment faire carrière dans le baseball majeur. Et déjà à cette époque, lorsqu'il était jeune, on sentait l'espoir de pouvoir un jour, bien sûr, évoluer dans les grandes ligues. Il commence sa carrière dans la Ligue des Noirs avant de faire le saut dans le baseball majeur en 1954 avec les Braves de Milwaukee. L'équipe, bien sûr, va déménager par la suite à Atlanta en 1966.
Même s'il était le meilleur joueur de baseball, Aaron ne pouvait pas loger à la même hôtel que ses coéquipiers blancs.
Non, puis c'est à l'époque de la ségrégation, et même si ces derniers insistaient et parfois tentaient de lui bloquer le chemin, lui disant « Non, reste avec nous, t'es notre coéquipier, il n'est pas question que tu ailles loger dans les quartiers noirs », et même les grandes vedettes des Braves à l'époque insistaient pour qu'Aaron les suive, mais Aaron disait « Non, moi je vais rester dans le quartier noir, je ne veux pas faire de problème ». On écoute là-dessus Claude Raymond.
Quand on allait visiter Houston ou Saint-Louis, il n'y avait pas le droit de rester dans les hôtels où on demeurait. Fait que l'autobus arrêtait dans le quartier noir, puis là, on le laissait sortir, malgré qu'il y a des joueurs des Braves, là, Lou Burdett, Warren Spahn, Eddie Matthews. Ils disaient non, non, tu restes ici, mais ils ne pouvaient pas. Les hôtels ne l'auraient pas accepté. Mm-hmm.
Et on comprend que l'héritage de Hank Aaron va au-delà du sport.
Oui, parce qu'on voit que c'est un personnage important du mouvement américain des droits civiques, hein, parce que le sport vraiment a servi beaucoup à l'émancipation des Noirs aux États-Unis. Il y a Muhammad Ali, hein, qui est également une figure marquante, qui a dit que Hank Aaron était le seul homme qui l'idolâtrait plus que lui-même, juste pour vous dire. Il y a également le joueur de basketball Kareem Abdul-Jabbar qui a tenu aussi à lui rendre hommage. Selon l'ancienne gloire des Lakers, Dominique, Hank Aaron fut une source d'inspiration pour les jeunes noirs de sa génération.
He was a source of pride for so many people, especially in the black community, because he had so much class. You know, he was a gentleman. He was quiet and strong in his... There was strength in his silence, and he said everything he had to say with his bat.
C'était une force tranquille. Il ne clamait pas haut et fort. Ses doigts revendiquaient, mais montrait l'exemple sur le terrain par la façon dont il se tenait et la fierté qu'il pouvait inspirer aux autres personnes noires des États-Unis. Aussi, on retiendra qu'il était non seulement un des meilleurs joueurs de l'histoire du baseball, et que pour plusieurs, il demeure encore le roi incontesté des coups de circuit, mais qu'il était un coéquipier également exemplaire dont l'humilité suscitait l'admiration de tous. Je laisse à Claude Raymond le mot de la fin.
Ça me fait énormément de tristesse à voir ce gars-là partir, parce qu'il faisait partie de notre équipe. C'est un coéquipier idéal pour nous autres.
Ils sont rares, hein, Dominique, ceux et celles qui font l'unanimité. Hank Aaron était l'un de ceux-là. Il nous a quittés le 22 janvier dernier. Hommage à Hank Aaron, qui depuis sa mort, bien sûr, les hommages fusent et sont tous unanimes. Et je voulais lui rendre hommage cette semaine, on parle de sport.
Tout un joueur, tout un athlète qui a fait beaucoup pour plein de gens. Donc, hommage à Hank Aaron. Je remercie, c'est le tout pour l'émission. Je remercie tout le monde qui a participé à mon émission. Louis, merci. Yvan Deslauriers, Charles Dubébret, Maxime Gagnon, Mélanie Labelle, Richard Saint-Amour. Je remercie Jean-Sébastien Liberté et Mathieu Tessier à la technique. C'est tout pour On parle de sport cette semaine. On passe les deux prochaines semaines et on se revoit le 9 février. Au revoir.